Chapitre 146. Liquidation. La mort de la loueuse de chaises de Saint-Jacques-du-Haut-Pas, aussi long et aussi blême que Basile, entra à pas comptés dans le cabinet en faisant 1000 génuflexions, absolument comme s'il se fût incliné devant le maître-autel. « Vous m'avez fait appeler, mon bon maître, » dit-il d'une voix dolente. « Oui, longue avoine, je vous ai fait appeler. » « Et en quoi puis-je avoir l'honneur de vous être utile? Vous savez que mon sang et ma vie sont à votre disposition. Je vais bien le voir, longue avoine, mais d'abord, dites-moi, et depuis que vous êtes à mon service, je vous ai donné un sujet de mécontentement ?»« Oh, Seigneur Jésus, jamais !» mon digne maître s'empressa de dire d'une voix pleine d'onction l'amant de la Barbette. « Eh bien, moi, longue avoine, j'ai un profond sujet de mécontentement contre vous. Oh, »« Vierge Marie, est-ce possible, mon bon maître ?»« C'est plus que possible, longue avoine, cela est, et ce qui prouve qu'à mon égard, vous avez au moins usé d'ingratitude. » « Oh, que Dieu qui m'entend !» dit le jésuite d'une voix de miel. « Que me punisse de mort si, à toute heure de ma vie, je ne me souviens pas de vos bienfaits !»« Justement, longue avoine, j'ai peur que vous ne les ayez oubliés. Rappelez-les-moi pour voir si vous en avez gardé mémoire. » Oh, « mon bon maître, comment voulez-vous que j'oublie qu'arrêtée au milieu de la rue Saint-Jacques-du-Haut-Pas, devant la petite porte de l'église, nantie d'une croix en argent et d'un ostensoir en vermeil, j'allais être envoyé au bagne si votre paternelle sollicitude ne se fût éveillée à temps pour me tirer de ce mauvais pas ?» « Depuis ce jour, dit Monsieur Jacqual, je vous ai fait entrer dans mon service. Or, de quelle façon avez-vous reconnu ce bon office ?»« Mais, mon noble maître, interrompit longue avoine, ne m'interrompez pas, dit sévèrement Monsieur Jacqual, je sais tout. Depuis 6 mois, vous faites de la police au compte du père Ronsin de la congrégation. » Dans l'intérêt de notre sainte religion, dit dévotieusement longue avoine, en levant les yeux au ciel d'un air béat. Intérêt mal entendu, longue avoine, dit Monsieur Jacqual en affectant un air courroucé, car le père Ronsin et sa compagnie ont entraîné Monsieur de Villèle, et Monsieur de Villèle a entraîné le ministère dans sa chute. De telle façon, malheureux que vous êtes, à votre insu, j'aime à le croire, mais fatalement, un perturbateur du repos public, et que, sans vous en douter, vous avez sapé la base du trône de Sa Majesté. « Est-ce possible ?» s'écria longue avoine en regardant M. Jacqual d'un air hébété. « Vous n'ignorez pas sans doute que le ministère est changé depuis ce matin. Et bien malheureux que vous êtes, c'est vous qui êtes une des causes de cette révolution administrative. Vous avez été désigné comme un homme dangereux. J'ai donc résolu, jusqu'à ce que l'ébullition de la capitale soit éteinte, de vous placer en lieu sûr, où vous puissiez, tranquillement et à loisir, vous recueillir et méditer. « Oh, mon bon maître !» s'écria longue avoine en se jetant aux pieds de Monsieur Jacqual. « Devant Dieu Tout-Puissant, je vous jure de ne plus remettre les pieds à Montrouge. » « Il est trop tard, » dit Monsieur Jacqual en se levant et en tirant le bouton de la sonnette. « Grâce, mon bon maître, grâce !» hurlait longue avoine en pleurant à chaudes larmes. Colombier parut. « Grâce !» répéta longue avoine qui frissonna en voyant entrer le rébarbatif agent dont il connaissait les attributions. « Il est trop tard, » dit d'un ton sévère Monsieur Jacqual. « Voyons, relevez-vous et suivez cet homme. » Longue avoine, voyant le visage irrité de M. Jacqual et comprenant qu'il n'y avait pas à parlementer, suivit l'agent en croisant les mains pour se donner un air de martyr. Longue avoine sortit, M. Jacqual sonna de nouveau. L'huissier parut, annonçant Carmagnol. « Qu'il entre, » dit M. Jacqual. Le Provençal se précipita, plutôt qu'il n'entra, dans le cabinet. « Qu'y a-t-il pour votre service, patron ? » dit-il d'une voix flûtée. « Rien que de très simple, Carmagnol, » répondit M. Jacqual. « Combien avez-vous de vols simples à vous reprocher ?»« 34, juste autant que d'années, » répondit assez gaiement Carmagnol. et de vols compliqués, je veux dire, avec effraction. 12, autant que de mois dans l'année, répondit le Marseillais sur le même ton. Et de tentatives d'assassinat. 7, autant que de jours dans la semaine. Vous avez donc, dit en résumant M. Jacqual, mérité 34 fois la prison, 12 fois le bagne et 7 fois la place de grève. En tout, 53 condamnations plus ou moins désavantageuses. Est-ce votre compte ?
C'est mon compte, répondit l'insouciant Carmagnol.
Eh bien, mon bon ami, vos aventures commençant à faire trop de bruit dans le monde, j'ai pris la résolution de vous exiler momentanément.
« Dans quelle partie du globe ?» demanda sans se troubler Carmagnol.
« Oh, je pense que le coin de terre que vous habiterez doit vous être à peu près indifférent. »«
Oui, pourvu que ce coin de terre ne soit pas au bord de la mer, » répondit le Provençal, qui entrevoyait vaguement, à la fois dans le site que M. Jacqual lui avait choisi, les noires brumes de Brest et le soleil de Toulon.
« Eh bien, spirituel Carmagnol, vous avez deviné précisément, quoique à regret, le lieu pittoresque de l'exil que j'ai rêvé pour vous. »«
Ah, monsieur Jacqual, dit en s'efforçant de sourire le loustique marseillais, vous voulez sans doute m'effrayer. »
« Moi, vous effrayez, mon bon Carmagnol, dit d'un ton étonné M. Jacqual, est-ce mon habitude d'effrayer les honnêtes serviteurs comme vous ?»
« Si je comprends bien, dit moitié gai, moitié triste le Provençal, c'est une partie de bagne que vous me proposez. »«
Vous avez trouvé le mot, ingénieux Carmagnol, c'est précisément une partie de bagne, mais je vais vous en dire l'enjeu. Vous êtes orphelin, de naissance. Vous n'avez ni amis, ni famille, ni patrie. Eh bien, je veux vous donner une patrie, une famille et des amis. De quoi vous plaignez-vous ?
Tranchons le mot, dit carrément le Marseillais. Vous voulez m'envoyer à Rochefort, à Brest ou à Toulon ?
Oh, je vous laisse à choisir de ces trois retraites celle qui vous conviendra le mieux. Mais comprenez-moi bien, intelligent Carmagnol, ce n'est pas pour vos péchés que je vous exile si loin de moi. C'est toujours pour mettre à profit votre zèle et votre dévouement.
« Je ne vous comprends pas, objecta le Provençal qui ne voyait pas où M. Jacqual voulait en venir.
« Je vais m'expliquer, bouillant Carmagnol. Vous n'ignorez pas que la surveillance, intelligemment exercée contre les faits et gestes des gentilshommes de Brest ou de Toulon, est un moyen traditionnel d'une grande puissance pour la conservation de l'ordre dans ces maisons de retraite pénitentiaire. »
« Je vous comprends, dit le Marseillais, fronçant légèrement le sourcil. Du rang de mouchard, vous m'élevez au rang de renard ou de mouton ?»«
C'est vous qui l'avez dit, perspicace Carmagnol. »
« Je pense, dit sans aucune gaieté le Provençal, que vous avez ouï parler des terribles vengeances qu'exercent les détenus contre les moutons. »
« Ah, je le sais, dit M. Jacqual, parce que ces moutons-là sont des ânes. Transigeons, ne soyez pas moutons, soyez renards. »
« Et combien de temps environ peut durer cette mission extraordinaire ?» demanda d'un air piteux Carmagnol.
« Le temps nécessaire pour étouffer le bruit qui s'est fait autour de vous depuis quelque temps.
Oh, croyez que je ne tarderai pas à être fatigué de votre absence. »
Carmagnol baissa la tête et réfléchit. Au bout d'une minute de silence, il reprit « Est-ce une offre réelle ? Est-ce sérieux ?»«
Rien de plus réel, rien de plus sérieux, mon bon ami, et je vais vous en donner la preuve. »
Monsieur Jacqual alla tirer pour la seconde fois le bouton de la sonnette et pour la seconde fois Colombier parut.
« Vous allez accompagner monsieur, dit monsieur Jacqual à l'agent en désignant Carmagnol, et vous le conduirez où je vous ai dit, avec tous les égards qui lui sont dus. »«
Mais, s'écria le malheureux Carmagnol, Colombier va me conduire au dépôt. »«
Sans doute, après, dit monsieur Jacqual en croisant les bras et en regardant sévèrement dans le blanc des yeux son prisonnier. »
« Ah, pardon, dit le Provençal, qui comprit toute la signification de ce regard. Je croyais que nous plaisantions. » Et s'adressant à Colombier comme un homme sûr de s'échapper du bagne avant peu, « Je vous suis, dit-il.
Ah, ce Carmagnol est vraiment plus enjoué qu'il n'est permis de l'être en pareille aventure, murmura M. Jacqual, en regardant dédaigneusement sortir le Marseillais. Puis, tirant pour la troisième fois le cordon de la sonnette de la cheminée, il revint s'asseoir dans son fauteuil. L'huissier parut et annonça Papillon et Brin d'Acier qui attendaient dans le couloir leur tour d'audience. Lequel est le plus impatient des deux ? Demanda M. Jacqual.
Oh, ils sont plus impatients l'un que l'autre, répliqua l'huissier.
Alors faites-les entrer tous les deux. L'huissier sortit, puis revint quelques instants après, précédant Papillon et Brin d'Acier. Brin d'Acier était un géant, Papillon était un nain. Papillon était chétif et imberbe, Brin d'Acier avait un corps trapu et des moustaches qui n'en finissaient plus. Enfin, et pour compléter le contraste, Brin d'Acier était mélancolique comme Longavoine et Papillon aussi jovial que Carmagnol. Hâtons-nous de dire que Brin d'Acier était de l'Alsace et Papillon de la Gironde. Le premier s'inclina tout d'une pièce devant M. Jacqual et le second fit une sorte de saut acrobatique plutôt qu'un salut. M. Jacqual sourit imperceptiblement en considérant ce chêne et cet arbrisseau.
« Brin d'Acier, dit-il, et vous, Papillon, qu'avez-vous fait pendant les soirées mémorables des 19 et 20 novembre derniers ?»«
Ah, j'ai, répondit Brin d'Acier, transporté rue Saint-Denis autant de charrettes de pavés de solives qu'on m'a fait l'honneur de m'en confier. »«
Bien, dit M. Jacqual, et vous, Papillon ?»«
Moi, répondit l'effronté Papillon, j'ai cassé, selon la recommandation de votre Excellence, la majeure partie des carreaux de la dite rue. »
Ensuite, Brin d'Acier, continua M. Jacqual,
ensuite, à l'aide de quelques amis dévoués, j'ai construit toutes les barricades qui sillonnaient le quartier des Halles.
Et vous, Papillon ?
Moi, répondit le personnage interpellé, j'ai fait partir au nez des bourgeois qui passaient toutes les pièces d'artillerie que votre Excellence m'avait fait l'honneur de me remettre.
Est-ce tout ? Demanda M. Jacqual.
J'ai crié à bas le ministère, dit Brin d'Acier.
Et moi, à bas les jésuites, ajouta Papillon.
Et après ?
Nous nous sommes retirés paisiblement, dit Brin d'Acier en regardant son ami.
Comme des gens inoffensifs, confirma Papillon.
Ainsi, reprit M. Jacqual en s'adressant à tous les deux, vous ne vous souvenez pas d'avoir fait quoi que ce soit en dehors des ordres que je vous avais donnés.
« Absolument rien, dit le géant.
Ah, « Rien, absolument, répéta le nain en regardant à son tour son camarade.
« Eh bien, je vais vous rafraîchir la mémoire, dit M. Jacqual, attirant à lui un dossier épais et en extrayant une double feuille de papier qu'il posa sur la table après l'avoir rapidement parcouru des yeux.
« Il résulte, dit-il, de ce rapport annexé à votre dossier que vous avez... »
Et primo, dans la nuit du 19 novembre, sous couleur de porter secours à une femme qui se trouvait mal, dévalisé en partie la boutique d'un joaillier de la rue Saint-Denis.
Oh, fit Brin d'Acier avec horreur.
Oh, répéta Papillon, indigné.
Secondo, continua M. Jacqual, dans la nuit du 20 novembre, vous avez tous les deux, à l'aide de fausses clés, aidés par la femme Barbette, concubine du sieur Longavoine, votre confrère, pénétré chez un changeur de la même rue et soustrait, tant en louis d'or de Sardaigne, en florins de Bavière, en thalers de Prusse, qu'en guinées anglaises, en doublons d'Espagne et en billets de banque de France, la somme de 63 701 francs 70 centimes, sans compter le change.
Oh, « C'est de la médisance, dit Brin d'Acier. Oh, c'est une odieuse calomnie, ajouta Papillon.
Tertio, dit M. Jacqual, sans paraître remarquer l'indignation de ces deux prisonniers, dans la nuit du 21 du même mois, vous avez tous les deux, en compagnie de votre ami Gibassier, arrêté à main armée entre Nemours et Château-Landon, la Malle-Poste, qui contenait un Anglais et sa lady, et après avoir mis un pistolet sous la gorge du postillon et du courrier, vous avez dévalisé la malle, qui contenait 27 000 francs. Je ne parle que pour mémoire de la chaîne et de la montre de l'Anglais et des bagues et des joyaux de l'Anglaise.
Oh, c'est de l'iniquité, s'écria l'Alsacien.
De l'iniquité pure, répéta le Bordelais. Quarto, et enfin, continua sans se déconcerter Monsieur Jacqual, et pour ne plus m'arrêter à vos diverses frasques depuis cette nuit jusqu'au 31 décembre, vous avez le 1er janvier 1828, afin sans doute de bien commencer l'année, éteint tous les réverbères de la commune de Montmartre et soustrait à la faveur de la nuit à tous les passants attardés, aux uns leurs bourses, aux autres leurs montres, si bien que le nombre des plaignants se monte jusqu'ici au chiffre de 39. Oh, soupira le géant, oh, gémit le nain. Par ces motifs, reprit Jacqual d'une voix magistrale, attendu que malgré vos dénégations, réfutations, indignations et autres contorsions, il est clair et démontré pour moi que vous avez abusé outrageusement de la confiance que j'avais mise en vous. Attendu, dis-je, qu'en dévalisant le tiers et le quart, vous vous êtes conduit non comme de sérieux et honnêtes agents de police, mais comme des voleurs vulgaires. Par ces motifs, vous êtes invité à vous rendre sous le plus bref délai dans le cabinet à côté, où un homme que vous connaissez tous les deux, le nommé Colombier, va vous appréhender au corps et vous conduire en lieu sûr jusqu'à ce que j'aie eu le temps d'aviser au moyen de mettre une digue à vos débordements. » Tout en prononçant avec le plus grand sang-froid ces paroles, M. Jacqual sonna Colombier, qui parut pour la troisième fois, et ne put s'empêcher d'étaler sa tristesse en voyant la piteuse mine que faisaient ses deux amis, Brin d'Acier et Papillon. Mais, en militaire, fidèle à sa consigne, il rengaina momentanément sa mélancolie, et sur un geste de M. Jacqual, il prit le géant sous un bras, le nain sous l'autre, et les entraîna plutôt qu'il ne les emmena rejoindre Carmagnol et Longavoine. Il y eut un moment d'arrêt dans cette liquidation. Cette quadruple arrestation n'avait ni ému ni même intéressé M. Jacqual. Sans doute l'esprit de Carmagnol lui était quelque peu sympathique et sa perte méritait un regret, mais il connaissait le Marseillais à fond. Il savait que d'une façon ou d'une autre, le Provençal était de cette étoffe de forçat dont on fait des octogénaires, il s'en tirerait tôt ou tard. Quant aux autres, ils n'étaient même pas des rouages dans sa machine administrative. Il la regardait plutôt fonctionner qu'il n'aidait à ses fonctions. Longavoine n'était qu'un hypocrite, Brin d'Acier n'était qu'un fier à bras. Pour Papillon, bien qu'il eût la légèreté du lépidoptère dont il portait le nom, ce n'était après tout qu'une pâle et mauvaise copie de Carmagnol. On conçoit donc que l'avenir de ce personnage n'intéressait que médiocrement le philosophe M. Jacqual. De quelle valeur étaient en effet ces êtres inférieurs à côté de cette supériorité incontestable et incontestée qui avait nom Gibassier? Gibassier, l'agent phénix, rara avis, le mouchard fait homme, l'homme aux expédients inattendus, l'homme aux ressources illimitées, l'homme aux incarnations multiples, aussi nombreuses que celles d'un dieu hindou. Voilà à quoi songeait le chef de la police secrète entre le départ de Brin d'Acier et de Papillon et l'arrivée de Gibassier. Enfin, murmura-t-il, puisqu'il le faut. Et ayant sonné l'huissier, il revint s'asseoir dans son fauteuil. Il plongea son front dans ses mains. L'huissier fit entrer Gibassier. Ce jour-là, Gibassier était en habit de ville. Des bas de soie ornaient ses pieds et des gants blancs gantaient ses mains. Sa figure était rose et ses yeux, assez ternes d'habitude, étaient à ce moment d'une vivacité et d'un éclat extraordinaire. M. Jacqual releva la tête et fut frappé de la magnificence de son costume et de son visage. « Vous êtes donc de noces ou d'enterrement aujourd'hui » demanda-t-il. « De noces, cher M. Jacqual, » répondit Gibassier. « De la vôtre, peut-être ? » « Pas précisément, mon cher monsieur, vous connaissez ma théorie sur le mariage, mais c'est tout comme, ajouta-t-il avec fatuité, la mariée est une vieille amie à moi. » M. Jacqual se bourra le nez de tabac comme pour comprimer l'admonestation qu'il allait adresser à Gibassier à propos de sa théorie sur les femmes. « Ai-je le plaisir de connaître le mari ?» demanda-t-il après un moment de silence. Vous le connaissez au moins par ouï dire, répondit le forçat. C'est mon compagnon de Toulon. C'est celui avec lequel je me suis ingénieusement échappé du bagne. C'est l'ange Gabriel. Je me souviens, dit Monsieur Jacqual en hochant la tête. Vous m'avez raconté cette anecdote au fond du puits qui parle, où j'ai eu l'avantage de vous repêcher, ce qui, pour le dire en passant, m'a occasionné un rhume qui ne m'a pas encore quitté. » Et comme pour donner plus de poids à ses paroles, Monsieur Jacqual se mit à tousser. « Ah, bonne toux, dit Gibassier, tout grâce, ajouta-t-il en forme de consolation. Un de mes aïeux est mort à 107 ans en s'évadant d'un 5e étage avec une toux pareille. » À propos d'évasion, dit Monsieur Jacqual, vous ne m'avez jamais parfaitement édifié sur la vôtre. Je sais bien vaguement qu'un infirmier vous a aidé, l'ange Gabriel et vous. Mais pour corrompre même un infirmier, il faut de l'argent. Où aviez-vous pris le vôtre? Car je ne sache pas que la grande fatigue vous ait beaucoup enrichi. Ici, le visage du gibassier, de rose qu'il était, devint pourpre. « Vous rougissez, observa M. Jacqual, étonné. « Pardonnez-moi, M. Jacqual, dit le forçat, mais un des souvenirs les plus décevants de ma vie aventureuse me revient en ce moment à la pensée. Je ne puis m'empêcher de rougir. » « Un souvenir décevant à propos du bagne ?» demanda M. Jacqual. « Non, répondit Gibassier en fronçant le sourcil, à propos de mon évasion, ou plutôt de la dame mystérieuse qui l'a facilitée. » « Ah, pourquoi ?» fit M. Jacqual en regardant Gibassier d'un air dédaigneux. « Ce serait à dégoûter pour jamais du beau sexe. » « Et c'est justement cette dame mystérieuse, continua le forçat sans paraître remarquer le dédain de son patron, qui vient d'épouser aujourd'hui l'ange Gabriel. « Ah, vous m'avez cependant assuré, Gibassier, dit sévèrement le chef de police, que ce forçat était à l'étranger. Ah, « C'est vrai, répondit avec une sorte d'orgueil Gibassier, il était allé demander le consentement de sa famille et réclamer ses papiers. » « Vous aviez été arrêtés ensemble, je crois. »« En effet, cher monsieur Jacqual, comme faux monnayeur. »« Faites excuse, mon noble patron. C'était l'ange Gabriel qui faisait la monnaie. Quant à moi, je suis d'une ignorance déplorable en fait de métallurgie. »« Faites excuse à votre tour, cher monsieur Gibassier. Je confonds la fausse monnaie avec la fausse écriture. »« Ah, c'est bien différent, dit gravement Gibassier. » « Si j'ai bonne mémoire, un jour, il est arrivé de la part de son Excellence, le ministre de la Justice, un dossier adressé à monsieur le directeur du bagne de Toulon. Ce dossier contenait toutes les pièces nécessaires pour la mise en liberté d'un forçat, revêtu de toutes les signatures officielles. Ces pièces émanaient de vous, n'est-ce pas ?» C'était pour la délivrance de l'ange Gabriel, cher monsieur Jacqual. C'est un des actes les plus philanthropiques de ma vie accidentée, et j'aurais la modestie de le taire si vous ne me forciez à le proclamer. Ce ne sont là, dit monsieur Jacqual, que les bagatelles de la porte, et cela ne m'explique pas votre 3e rentrée au bagne. Veuillez me rafraîchir la mémoire. « Je vous comprends, dit le forçat, c'est mon examen de conscience que vous me priez de faire devant vous, c'est ma confession que vous me demandez. « Précisément, Gibassier, et à moins que vous ne voyiez à cette confidence quelque obstacle sérieux, je n'en vois aucun, dit Gibassier, j'ai d'autant moins à hésiter qu'il vous suffirait de lire les journaux du temps pour vous édifier suffisamment là-dessus. » « Commencez donc. C'était en 1822 ou 1823, je ne suis pas sûr de la date. La date ne fait rien à l'affaire. C'était une année fertile. Jamais la moisson n'avait étalé des épis plus dorés. Jamais les coteaux de vigne n'avaient montré des pampres plus verts. Je vous ferai observer, Gibassier, que la moisson et les pampres sont complètement étrangers à la question. » C'est pour vous dire, mon cher monsieur Jacal, que la chaleur de cette année-là était étouffante. Il y avait 3 jours que je m'étais évadé du bagne de Brest. Il y avait 3 jours que j'étais caché dans le creux d'un de ces rochers qui forment la ceinture de la côte de Bretagne, sans boire et sans manger. Au-dessous de moi, un groupe de gitanos couverts de haillons parlait de mon évasion et des 100 francs qui seraient alloués à celui qui m'arrêterait. Vous n'ignorez pas que le bagne est, pour ces bandes errantes, un pourvoyeur abondant. Comme elles se nourrissent du poisson mort que la mer rejette sur la plage, elles vivent aussi de la chasse du galérien. Elles connaissent les bois épais, les chemins creux, les vallées profondes, les masures désertes où le forçat haletant ira reprendre haleine dans sa course. Au premier coup de canon qui annonce une évasion, elles semblent sortir de dessous terre, armées de bâtons, de cordes, de pierres, de couteaux, et se mettent en chasse avec une joie, une avidité qui semble instinctive chez ces bohémiens. J'étais donc là depuis 3 jours quand, le soir, un coup de canon retentit qui annonçait une seconde évasion. Aussitôt, grand branle-bas de chasse parmi les gitanos. Chacun d'eux prend la première arme qui lui tombe sous la main et, se mettant à la piste de mon malheureux camarade, il me laisse sur mon rocher comme l'antique Prométhée, rongé par les vautours de la soif et de la faim. Votre récit est palpitant d'intérêt, gibassier, dit monsieur Jacal avec un imperturbable sang-froid. Continuez. La fin, reprit gibassier, ressemble à Guzman, elle ne connaît pas d'obstacle. En 2 sauts, je fus à terre, en 3 bonds, je fus dans le fond d'une vallée. J'aperçus, à 7 ou 8 pas de distance, une masure, à la lucarne de laquelle brillait une petite lumière. J'allais frapper pour demander de l'eau, du pain, quand l'idée me vint que cette maisonnette pouvait servir d'abri à quelques gitanos, ou tout au moins à quelques paysans qui ne manqueraient pas de me vendre. J'hésitais un instant, mais ma résolution fut bientôt prise. Je frappai à la porte de la cabane avec le manche de mon couteau, bien décidé à vendre chèrement ma vie si on me menaçait. « Qui est là ?» demanda une femme, qu'à sa voix cassée, je reconnus pour une vieille, et qu'à son accent, je reconnus pour une gitana. « Un pauvre voyageur qui ne demande qu'un verre d'eau et un morceau de pain, » répondis-je. « Mais passez votre chemin !» glapit la vieille en fermant la fenêtre de la lucarne. « Ah, bonne femme, au nom de l'humanité, du pain et de l'eau !» m'écriai-je d'une voix suppliante, mais la vieille femme ne répondit pas. « Ah, c'est toi qui l'auras voulu !» dis-je, en donnant un si vigoureux coup de pied dans la porte qu'elle alla tomber au bout de la salle basse qui servait d'entrée à la maison. Au bruit que fit la porte en tombant, une vieille gitana apparut, une lampe à la main, au sommet de l'échelle qui lui servait d'escalier. Elle mit sa main droite derrière sa lampe pour mieux éclairer ma figure, mais ne pouvant rien discerner à travers cette espèce d'obscurité, elle demanda d'une voix chevrotante « Qui est là ?»« Le malheureux voyageur, » répondis-je. « Attends, » dit-elle, en descendant les degrés de l'échelle avec une agilité extraordinaire pour son âge. « Attends, je vais te faire voyager !» Voyant que j'aurais bon marché de cette vieille sorcière, je courus à la huche et, apercevant un morceau de pain noir, je le pris et je le mordis avidement. À ce moment, la bohémienne mettait le pied sur le sol. Elle vint droit à moi et, me poussant par l'épaule, elle essaya de me mettre à la porte. « Je vous en supplie, laissez-moi boire, » dis-je en apercevant au fond de la salle un alcarasas. Mais elle recula, épouvantée, et poussa un cri terrible, cri de hibou ou de chouette, en voyant mes habits de forçat. À ce cri, une autre figure apparut au sommet de l'échelle. C'était la figure d'une grande et chétive jeune fille de 16 à 17 ans. « Qu'y a-t-il, maman ? » s'écria-t-elle.
« Le forçat !» hurla la vieille en me montrant du doigt. La jeune fille sauta plutôt qu'elle ne descendit l'échelle et, s'élançant sur moi avec une avidité de bête fauve, avant même que j'eusse pu observer son mouvement et avec une énergie incroyable pour une femme de cet âge, m'entourant le cou par derrière, elle me renversa sur les dalles en criant « Maman !» À cet appel, la mère bondit comme un chacal et, s'accroupissant sur ma poitrine, elle cria de toute la force de ses poumons « Au secours, au secours !»« Lâchez-moi, dis-je, en essayant de repousser ses furies. »« au secours !» beuglèrent à la fois la mère et la fille. « Taisez-moi et lâchez-moi » répétai-je d'une voix de stentor. « au forçat !» hurlèrent-elles à qui mieux mieux. « Vous n'allez pas vous taire, m'écriai-je, en saisissant la vieille à la gorge et en la renversant sur le dos, si bien qu'à mon tour, je me trouvais accroupi sur elle. La jeune fille sauta sur moi, puis m'attirant la tête en arrière, un mouvement qui lui semblait familier, elle me saisit l'oreille qu'elle essaya de déchirer avec ses dents. Oh, je vis qu'il fallait en finir avec ces démons enragés. Les pères, frères ou maris pouvaient venir d'un moment à l'autre. J'enfonçai profondément mes 10 doigts dans le cou de la vieille et, au râlement qui s'échappa de sa poitrine, je compris qu'elle ne crierait plus. Pendant ce temps, la jeune fille mordait toujours. « Lâchez-moi ou je vous tue !» dis-je avec une énergie formidable. Mais, soit qu'elle ne comprît pas mon idiome, soit qu'elle refusa de me comprendre, elle mit tant de férocité dans ses morsures que, tirant mon couteau et retournant mon bras droit sur son côté, j'enfonçai la lame jusqu'au manche dans sa mamelle gauche. Elle tomba. Je sautai sur l'alcarassas et je bus avidement l'eau qu'il contenait. « Je connais la suite, » dit M. Jacqual, dont le front s'était rembruni de plus en plus à mesure que le narrateur arrivait au sinistre dénouement de sa lugubre histoire. « Vous fûtes arrêté 8 jours après et conduit à Toulon, gracié de la peine de mort par un de ces hasards où la main de la Providence se montre bien clairement. » Après ces paroles, il y eut un moment de silence. M. Jacqual sembla tomber dans une profonde rêverie. Pour Gibassier, qui, malgré la gaieté de son costume, s'était peu à peu attristé tout en racontant son histoire, pour Gibassier, disons-nous, il commençait à se demander à propos de quoi son patron lui avait fait raconter une aventure qu'il connaissait pour le moins aussi bien que lui. Une fois cette pensée entrée dans son cerveau, il se demanda quel intérêt pouvait avoir le chef de la police à cet examen de conscience. Il ne le devina pas, mais il le flaira et le pressentit vaguement. Il résuma la solution en hochant la tête et en murmurant à part lui « Diable, voici qui est mauvais pour moi ». Ce qui contribua à le corroborer dans cette pensée, ce fut la tête penchée, le front nuageux, en un mot, l'attitude pensive de M. Jacqual. Pour celui-ci, relevant tout à coup la tête et passant la main sur son front comme pour en écarter les nuages, il regarda le forçat avec une sorte de compassion et lui dit « Écoutez-moi bien, Gibassier, je ne veux pas troubler un si beau jour par des récriminations qui vous paraîtraient sans doute aujourd'hui hors de saison. Allez donc à la noce de l'ange Gabriel, mon bon ami, amusez-vous bien. » J'avais à vous dire, dans votre intérêt, une chose de la plus haute importance, mais, en considération de ce banquet fraternel, je remets l'affaire à demain. À propos, mon cher Gibassier, où se donne le festin de noces ? Au Cadran Bleu, cher monsieur Jacqual. Oh, excellent restaurateur, mon bon ami. Amusez-vous donc bien, et à demain, les affaires sérieuses. À quelle heure, s'il vous plaît ? Demanda Gibassier. À demain midi, si vous n'êtes pas trop fatigué. « À midi, heure militaire, » dit en saluant et en se retirant le forçat, étonné et ravi que cette conversation, qui avait si mal commencé, eût fini si bien. Le lendemain, heure militaire, ainsi qu'il l'avait dit lui-même, Gibassier fit son entrée dans le cabinet de M. Jacqual. Ce jour-là, sa mise était des plus simples, sa figure était des plus pâles. En l'examinant attentivement, un observateur eut découvert dans les rides profondes de son front et dans le cercle noir qui entourait ses yeux les traces d'une nuit d'insomnie et d'anxiété. C'est ce que ne manqua pas de remarquer M. Jacqual, qui ne se trompa point sur les causes de l'insomnie du forçat. En effet, après le festin vient le bal, pendant le bal vient le punch, après le punch vient l'orgie, et Dieu sait où l'orgie conduit ses fidèles. Gibassier avait accompli rigoureusement ce fatigant pèlerinage qui va du salon du restaurateur à la chambre de l'orgie. Mais ni le vin, ni le punch, ni l'orgie n'étaient de taille à abattre un homme de la force de Gibassier. Et M. Jacqual eût vu rayonner sur son front sa sérénité accoutumée si un incident survenu à son petit lever ne lui avait fait perdre en même temps l'esprit et les rouges couleurs de ses joues. Et le lecteur conviendra avec nous tout à l'heure qu'il y avait de quoi perdre davantage encore. En effet, voici ce qui était arrivé. À 8 heures du matin, encore endormi, Gibassier avait été brusquement réveillé par de violents coups frappés à sa porte. De son lit, il avait crié « Qui est là ?» Une voix de femme avait répondu « C'est moi !» Et Gibassier, en reconnaissant la voix, était allé ouvrir la porte et s'était recouché précipitamment. Qu'on juge de son étonnement en voyant entrer chez lui, pâle, échevelé, les yeux en fureur, une femme d'une trentaine d'années qui n'était autre que la nouvelle épousée, la femme de l'ange Gabriel, une vieille amie à lui, ainsi qu'il l'avait dit à Monsieur Jacqual. « Qu'arrive-t-il, Élise ?» dit-il dès qu'elle fut entrée. « Oh, m'a enlevé Gabriel !» répondit la femme. « Comment enlever Gabriel ?» demanda le forçat stupéfait. « Qui cela ?»« Je n'en sais rien. »« Quand cela ?»« Je ne le sais pas davantage. »« Ah ça, voyons, cher ami, » dit Gibassier en se frottant les yeux pour s'assurer qu'il était bien éveillé. « Je ne suis plus endormi et je ne rêve pas que vous êtes ici et qu'on a enlevé Gabriel. Qu'est-ce que cela veut dire ? Comment les choses se sont-elles passées ?» Voici, dit Élise, en sortant du cadran bleu, nous nous sommes dirigés vers notre logement, n'est-ce pas ? J'aime à le croire. Un jeune homme des amis de Gabriel et un autre que nous ne connaissions pas, très bien mis d'ailleurs, nous ont accompagnés jusqu'à notre porte. Arrivés là, et au moment où je soulevais le marteau, l'ami de Gabriel lui a dit « Ah, je suis obligé à partir demain matin de bonne heure. Je ne pourrai pas vous revoir, et cependant j'avais quelque chose de très important à vous dire. » « Eh bien, répondit Gabriel, si c'est si important, dites-le-moi tout de suite. »« C'est que c'est un secret, » dit à voix basse son ami. « Qu'à cela ne tienne, » répond Gabriel, « Élise va monter se coucher, vous allez me conter la chose. »« Je monte me coucher, en effet, et j'étais si fatigué de la danse que je m'endors comme une souche. » Or, ce matin, en me réveillant à 8 heures, j'appelle Gabriel. Gabriel ne répond pas. Je descends chez la portière et demande de ses nouvelles. Ni connu, ni vu, il n'était pas rentré. Une nuit de noces, dit Gibassier en fronçant le sourcil. Ah, c'est ce que je me dis, dit Élise. Si ce n'était pas une nuit de noces, cela pourrait peut-être s'expliquer. Ah, cela s'expliquerait parfaitement, observa le forçat, qui se faisait fort d'expliquer les choses les plus inexplicables. Alors j'ai couru au cadran bleu et au cabaret où il va d'habitude pour tâcher d'avoir quelques renseignements, et comme je n'en ai obtenu de personne, je suis venu en chercher auprès de toi. Toi est peut-être un peu leste, dit Gibassier, pour un lendemain de noces. Puisque je te répète qu'il n'y a pas une nuit. Ah, au fait, c'est juste, avoua le forçat qui, à partir de ce moment, commença à regarder son ancien ami absolument comme il en eût regardé une nouvelle. Et tu ne soupçonnes rien, reprit-il après cette inspection. Que veux-tu que je soupçonne ? C'est tout, parbleu. Ah, c'est beaucoup, objecta naïvement Élise. « Dis-moi d'abord, continua Gibassier, le nom de cet ami qui vous a reconduit. »« Je ne sais pas son nom. Décris-le-moi. C'est un petit brun qui a des moustaches. »« Bah, ce n'est pas une description, cela. La moitié du genre humain est petite, brune et porte des moustaches. »« Je veux dire qu'il me semble être du midi. De quel midi? Du midi de Marseille ou du midi de Toulon? Il y a le midi et le midi moins un quart. Je ne te dirai pas. Il avait un habit. Où Gabriel l'a-t-il connu? En Allemagne, à ce qu'il paraît. Ils sont partis de Mayence, où ils avaient dîné à la même auberge, et puis de Francfort, où ils avaient fait des affaires à compte admis. Quelles affaires? Je n'en sais rien. Tu en sais trop peu, cher ami, et je ne vois pas, dans les faibles renseignements que tu me donnes, nul indice qui puisse nous mettre sur une piste. Comment faire? Permets-moi d'y rêver. Tu ne le crois pas capable d'avoir été passé la nuit ailleurs? Au contraire, cher ami, c'est ma conviction intime, attendu que, n'étant pas chez toi, nécessairement, il l'a passé ailleurs. Par ailleurs, j'entends chez d'anciennes maîtresses à lui. Ah, quant à cela, je t'affirme le contraire. Ce serait d'abord une lâcheté, ensuite une bêtise. Gabriel n'est ni bête ni lâche. C'est vrai, dit Élise en soupirant. Mais enfin, que faire? Puisque je te dis que je vais y rêver. En effet, le forçat croisa les bras, fronça le sourcil, et au lieu de regarder son ancien ami comme il l'avait fait jusqu'à ce moment, il ferma les yeux et regarda, pour ainsi dire, en lui-même. Pendant ce temps, Élise tournait ses pouces et examinait la chambre à coucher de Gibassier. La méditation de celui-ci semblait à Élise devoir se prolonger indéfiniment et finalement aboutir au sommeil. Hé, hé, l'ami Giba, dit-elle en se levant et en lui tirant son bras de chemise. Quoi, est-ce que nous sommes endormis? Ah, je réfléchis, te dis-je, fit d'un air de mauvaise humeur Gibassier qui, loin de s'endormir, commentait, mot pour mot, toute la conversation qu'il avait eue la veille avec M. Jacquel et commençait à soupçonner, en se souvenant de ses derniers mots, « Où dînez-vous ?» que le chef de la police pouvait bien ne pas être tout à fait étranger à la disparition de l'ange Gabriel. Une fois cette idée arrivée à son esprit, il sauta à bas de son lit sans pudeur aucune et enfourcha rapidement son pantalon. « Que fais-tu donc ? » demanda avec étonnement Élise, qui peut-être venait chercher auprès du forçat moins des renseignements que des consolations. Eh, « Tu le vois bien, je m'habille, » répondit Gibassier, s'habillant en effet avec tant de précipitation qu'on eût dit qu'on allait l'arrêter ou que le feu était à la maison. En 2 minutes, il fut vêtu de la tête aux pieds. « Ah ça ? » demanda Élise. « Que te prend-il donc ? As-tu quelque crainte ?»« Je crains tout, chère Élise, et j'ai 1000 autres craintes, » dit emphatiquement le forçat qui, malgré le danger qui le menaçait, faisait flamberge de son pédantisme. « Tu es donc sur une piste ?» demanda la femme de Gabriel. « Positivement, » répondit le classique Gibassier, en tirant de son secrétaire les billets de banque et les pièces d'or qu'il contenait. « Tu prends de l'argent ?» dit Élise, étonnée. « Tu vas donc en voyage ?» Tu l'as dit. « Loin, bien loin ? Au bout du monde, probablement. « Pour longtemps ?»« Pour toujours, si c'est possible, » répondit Gibassier, en prenant dans un autre tiroir une paire de pistolets, des cartouches et un poignard qu'il fourra dans les poches de sa redingote. « Ta vie est donc menacée ?» demanda Élise, de plus en plus étonnée, en voyant tous ces préparatifs. « Plus que menacée, » répondit le forçat, en enfonçant son chapeau sur sa tête. « Mais tu ne pensais pas à voyager quand je suis entrée ici ?» objecta la femme de Gabriel. « Non, mais l'arrestation de ton mari m'a donné la venette. Tu crois donc qu'il a été arrêté ? Je ne le crois pas, j'en suis sûr. En conséquence, mon amour adoré, je te fais mes salutations bien respectueuses et je t'engage à faire comme moi, c'est-à-dire à te retirer en lieu sûr. » Ce disant, le forçat prit Élise dans ses bras, l'embrassa vivement et descendit l'escalier 4 à 4, laissant la femme de l'ange Gabriel au comble de la stupéfaction. Arrivé au bas de l'escalier, Gibassier passa devant la loge de la concierge sans tenir compte de l'attention de la bonne femme qui voulait lui remettre ses lettres et ses journaux. Il franchit si rapidement le couloir qui le séparait de la rue qu'il ne remarqua pas qu'un fiacre était arrêté à la porte, phénomène insolite dans une pareille rue devant une semblable maison. il remarqua encore moins quatre hommes qui flanquaient la porte des deux côtés et qui, dès qu'ils l'aperçurent, le saisirent au collet et l'emballèrent dans le véhicule avant même qu'il n'eût mis le pied sur le pavé. L'un de ces quatre hommes était le rébarbatif Colombier et l'un de ceux qui lui tenaient les poignets, un petit brun à moustache, qu'il reconnut immédiatement sur les vagues indications d'Élise pour celui qui avait coupé les ailes de l'ange Gabriel. Au bout de 10 minutes, la voiture arrivait à la préfecture de police et, après 1 heure et demie passée au dépôt, où il avait retrouvé ses collaborateurs et amis, Brin d'Acier, Carmagnol, Longavoine et Papillon, il faisait, ainsi que nous l'avons dit, son entrée dans le cabinet de M. Jacqual à midi précis. On comprend que, suffisamment renseigné par ses camarades sur les arrestations de la veille, Gibassier devait faire une assez pauvre mine devant le chef de la police. « Gibassier, dit M. Jacqual d'un air profondément affligé, je regrette vivement, croyez-le bien, d'être contraint de vous mettre à l'ombre pendant quelque temps. Le soleil des grandes villes vous a un peu dérangé la cervelle, mon bon ami. » Et quand vous avez arrêté la malle-poste contenant un Anglais et sa femme entre Nemours et Château-Landon, vous avez trop oublié que vous pouviez brouiller la cour de Londres et celle de France. En d'autres termes, vous avez trop fait litière de la liberté que je vous ai si généreusement et si largement octroyée. « Ah, mais monsieur Jacqual, interrompit Gibassier, croyez bien qu'en arrêtant la malle-poste, mon intention n'était pas de malmener ces insulaires. Hein, ce que j'aime en vous, Gibassier, c'est qu'au moins vous avez le courage de votre opinion. Un autre à votre place, Papillon ou Brin d'Acier, par exemple, pousserait les hauts cris de 12 agneaux si on leur parlait d'une malle-poste arrêtée nuitamment par eux entre Nemours et Château-Landon. Mais vous, vous entrez de plein pied dans la vérité. Une malle a été arrêtée. Par qui? Par moi. Moi, Gibassier. Moi, dis-je. Et c'est assez. Ah, une franchise exubérante. Voilà votre qualité essentielle, très dominante. Et je me fais une véritable joie de la constater devant vous. Malheureusement, mon bon ami, la franchise, si prépondérante qu'elle soit, ne tient pas lieu de toutes les qualités requises pour faire un sage, et c'est à regret que je me vois forcé de vous dire que vous avez totalement manqué de sagesse dans l'affaire de la malle-poste. Comment diable un homme d'esprit comme vous va-t-il s'aviser d'arrêter des Anglais ? Je le prenais pour des Alsaciens, répondit Gibassier. C'est une circonstance atténuante. Quoique, Brin d'Acier étant de l'Alsace, il fut de mauvais goût d'arrêter un compatriote. Il y a donc à la fois manque de civisme et de goût, et voilà pourquoi je m'imagine qu'un peu d'ombre vous sera salutaire. Ainsi, dit le forçat qui commençait à se décontenancer, vous m'envoyez tout bêtement au bagne? « Tout bêtement, comme vous dites. À Rochefort, à Brest ou à Toulon ?»« À votre choix, mon ami. Vous voyez comme j'en use paternellement avec vous. »« Et pour longtemps ?»« Encore à votre choix. Vous n'avez qu'à vous bien tenir. Vous m'êtes trop précieux pour que je ne vous rappelle pas près de moi dès que j'en trouverai l'occasion. »« Et accouplé ?» « Oh, toujours à votre choix, on n'est pas plus accommodant. »« Eh bien, dit Gibassier, qui, commençant à s'apercevoir qu'il ne pouvait pas faire autrement, venait de prendre son parti, eh bien, c'est convenu, et je choisis Toulon sans accouplement. » Ah, hélas, fit en soupirant M. Jacqual, encore une de vos qualités précieuses qui s'en va, Gibassier. Je veux parler de la gratitude ou de l'amitié, si vous aimez mieux. Mais quoi? Votre cœur verra, sans se briser, un frère de bagne rivé à une autre chaîne que la vôtre? Que voulez-vous dire? Demanda le forçat, qui ne voyait pas où M. Jacqual voulait en venir. « Est-il possible, un gras Gibassier, que vous ayez perdu tout souvenir de l'ange Gabriel quand il y a 24 heures à peine vous teniez le flambeau de son hyménée ?»« Je ne m'étais pas trompé, murmura Gibassier. Ah, »« Vous vous trompez rarement, cher ami, et c'est encore une justice à vous rendre. » J'étais certain que c'était par vos ordres qu'il avait été arrêté. Par mes ordres, en effet, perspicace gibassier, mais savez-vous pourquoi je l'ai fait arrêter ?
Non, répondit franchement le forçat.
Pour une peccadille qui n'a pas le sens commun, si vous voulez, et qui cependant mérite une petite correction pour lui apprendre à se mieux conduire. Croyez-vous que, pendant que le curé de Saint-Jacques-du-Haut-Pas, qui le mariait, lui faisait baiser sa patenne, on lui a volé son mouchoir et sa tabatière? Oh, on n'est pas plus léger. Et de façon que le curé, qui n'a pas voulu faire de scandale dans son église, a achevé tranquillement la cérémonie et est venu, une demi-heure après, me faire sa déclaration.
Croyez donc à la vertu des anges, à présent.
Et voilà, gibassier, comment vous êtes un ingrat en ne demandant pas à main jointe à être rivé à la même chaîne que ce jeune étourneau dont vous auriez achevé l'éducation.
S'il en est ainsi, dit gibassier, je retire ma requête, je demande Toulon et l'accouplement.
Ah, la bonne heure, je reconnais enfin le gibassier de mon cœur. Ah, quel homme vous auriez fait si vous aviez été à meilleure école. Mais on vous a, dès l'enfance, abruti par la lecture des classiques, et vous ignorez les premiers éléments de l'école moderne. Voilà ce qui vous a perdu. Mais tout n'est pas désespéré, et le dommage est peut-être réparable. Vous êtes jeune encore, vous pouvez étudier. Tenez, au moment où vous êtes entré, je songeais à créer une vaste bibliothèque à l'usage de tous les déshérités de votre espèce. Et pendant que j'y songe, si au lieu de vous accoupler avec l'ange Gabriel, je vous mettais tous deux à demi-chaîne, et si je vous élevais tous deux, dès votre entrée, au poste le plus recherché, le plus lucratif, au rang de païol, c'est-à-dire d'écrivain, n'est-ce pas une sorte de charmante maison que celle qui a pour objet la correspondance de ses camarades non lettrés, et d'être ainsi le confident de leurs secrets les plus intimes, leurs conseils et leur appui? Que diriez-vous d'une semblable faveur?
Vous me comblez, dit d'un air moitié ironique, moitié sérieux le forçat.
Oh, vous le méritez, dit avec une politesse exagérée monsieur Jacqual.
Eh bien, c'est entendu, vous pouvez vous regarder tous les deux comme païoles officiels. Avez-vous, pendant que vous y êtes, d'autres souhaits à formuler, d'autres requêtes à m'adresser?
Une seule, dit gravement gibassier.
Ah, parlez, cher ami, je me creuse la tête pour trouver quelque chose qui puisse vous être agréable.
Mais puisque Gabriel, dit le forçat, a été arrêté hier au soir, il n'a pas eu le temps de faire une bien longue connaissance avec son épouse. Serait-ce trop vous demander que de permettre à celle-ci de voir son mari avant son départ pour le midi?
Oh, ce n'est pas trop demandé, cher ami. Elle le verra tous les jours avant son départ.
Est-ce tout, gibassier?
Ce n'est que la première partie de ma requête.
Voyons la seconde.
Lui permettrez-vous d'habiter sous la même latitude que son époux?
Accordé, gibassier.
Quoique la seconde partie de votre requête me fâche autant que la première me charmait.
Dans la première partie, vous montriez du désintéressement, vous parliez pour un ami absent, tandis que dans la seconde, vos vues me semblent intéressées.
Je ne vous comprends pas, dit gibassier.
C'est pourtant bien simple. Ne m'avez-vous pas dit que la femme de votre amie était votre ancienne amie?
Non, j'ai peur que ce ne soit pour vous autant que pour lui que vous rêvez l'installation de sa femme dans vos parages.
Le forçat rougit pudiquement.
Enfin, dit mélancoliquement monsieur Jacqual, on n'est pas parfait. Vous n'avez plus rien à me demander?
Une dernière chose.
Allez toujours, pendant que vous y êtes.
Comment s'effectuera notre départ?
Oh, vous devez savoir à quoi vous en tenir là-dessus, gibassier. Il s'effectuera de la façon ordinaire.
En passant par Bicêtre, demanda le forçat en faisant une horrible grimace.
Naturellement.
Voilà qui m'afflige démesurément.
Et pourquoi cela, mon bon ami? Que voulez-vous, monsieur Jacal, je ne peux pas m'habituer à Bicêtre. Vous l'avez dit vous-même, on n'est pas parfait. La seule pensée que je suis en contact avec les fous me donne des attaques de nerfs. Alors, dit monsieur Jacal en se levant, pourquoi n'êtes-vous pas sage? Malheureusement, Gibassier, continua-t-il en allant tirer le bouton de la sonnette, malheureusement, je ne puis faire droit à votre requête. Je comprends toute la tristesse dans laquelle cette pensée peut vous jeter, et c'est une affreuse nécessité, mais c'en est une, et comme vous le savez, en votre qualité de classique, les anciens représentaient la nécessité avec des coins de fer.
Monsieur Jacal achevait ses paroles quand Colombier parut. « Colombier, dit le chef de police en prenant une large prise de tabac qu'il huma avec volupté, comme satisfait de la façon dont les choses s'étaient passées. « Colombier, je vous recommande tout particulièrement, vous m'entendez bien, tout particulièrement, monsieur Gibassier. » Provisoirement, au lieu de le descendre au dépôt, vous allez le placer dans la prison où vous avez mis le prisonnier que vous avez arrêté hier au soir. » Puis, se tournant vers Gibassier, « Ah, c'est de l'ange Gabriel que je parle. Et dites que je ne pense pas à tout, ingrat. Je ne sais véritablement pas comment vous remercier, dit le forçat en s'inclinant. « Vous me remercierez à votre retour, dit monsieur Jacal en le congédiant. » Il le regarda partir avec une sorte de mélancolie. « À présent, dit-il, me voici manchot, car c'est mon bras droit qui s'en va. »